Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Charline. Charline est sage-femme. Vous la connaissez d'ailleurs peut-être sur le réseau sous son pseudo Charline Sage-femme. Elle aborde avec une certaine simplicité et souvent avec humour tout un tas de sujets qui tournent autour de la gynécologie et de tout ce qui touche au métier de sage-femme. Nous allons échanger justement sur ce métier de sage-femme, sur les parcours qui sont proposés aux mères comme aux pères et coparents, en amenant des informations, en amenant des réflexions et parfois même des débats. Nous essaierons aussi d'aller sur le terrain de la réflexion sociale et politique pour trouver des solutions aux problématiques qu'elle peut constater au travers de son expérience de sage-femme. Avant toute chose, et pour un petit peu planter le décor, je lui ai demandé de nous rappeler quel est le rôle d'une sage-femme, tout simplement parce que ce n'était pas clair déjà pour moi. Merci Charline de répondre à cette première question. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Une sage-femme, c'est vraiment le professionnel de santé qui va pouvoir s'occuper de toute la grossesse, pas que, mais là on va vraiment parler de la grossesse. Ça peut être les consultations prénatales, donc les consultations mensuelles, mais c'est aussi les sages-femmes qui vont en libéral ou à l'hôpital faire les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Ça, c'est pour l'aspect grossesse prénatale. C'est également les sages-femmes qui font la majorité des accouchements aujourd'hui en France. Vraiment, dans plus de 80% des cas, ce sont les sages-femmes qui font les accouchements. Et même quand ce ne sont pas elles qui font les accouchements, c'est celles qui sont présentes quand le couple arrive aux urgences obstétricales. C'est celles qui suivent le travail. Et c'est pas rien, le travail. donc, toutes ces heures-là, c'est la sage-femme. Plus ou moins l'accouchement. Et puis, la surveillance post-accouchement, que ce soit vraiment dans les suites immédiates, là, les 2 heures juste après l'accouchement, l'hospitalisation les quelques jours après, ou le retour à domicile, où c'est encore la sage-femme qui passe à la maison pour voir la personne qui vient d'accoucher, l'enfant, mais également le couple pour répondre aux questions. Voilà, ça c'est vraiment le champ, on va dire, grossesse en rapport avec ce dont on parle aujourd'hui. Après, il y a plein d'autres cordes à notre arc, mais bon, on va cibler.
Oui, c'est vrai que c'est un champ qui est quand même très large finalement, parce que c'est vrai que moi, de ce que j'ai observé, tu vois, en tant qu'usager du système public, ouais, de santé publique, et donc papa et futur papa, j'ai en effet vu des personnes qui sont sur plein de fronts différents, avec des moyens par ailleurs qui sont pas évidents. C'est pas le sujet du podcast, mais je pense qu'on peut le dire aussi. On peut placer le fait que quand même en France, l'exercice du métier de sage-femme est rendu très compliqué, notamment par des problèmes d'effectifs.
Je te remercie de préciser.
on peut le dire, c'est un sujet important. Ouais. Et c'est vrai que ce soit à la préparation ou au moment de l'accouchement ou après, on a toujours vu une sage-femme. C'est vraiment le professionnel qui est partout.
C'est vraiment ça. En fait, la sage-femme, et je n'ai pas précisé, même quand c'est des grossesses un peu plus pathologiques, par exemple les patientes qui sont hospitalisées pour des grossesses à haut risque, c'est à nouveau une sage-femme qui est là au quotidien dans le service d'hospitalisation. Ça peut être également une sage-femme en libéral qui passe faire des monitorings pour le suivi. Mais globalement, une patiente qui a une grossesse sans risque, il est possible que de l'annonce de sa grossesse à la grossesse passée, eh bien, elle ne rencontre que des sages-femmes et jamais de gynécologues selon l'endroit où elle accouche. C'est complètement possible.
D'accord. Ah ouais, ça c'est chouette. Donc vous avez quand même un gros champ d'action.
Exactement.
Et qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui dans le parcours de parentalité, donc quand on va être parent, hein, avant la naissance, qu'est-ce qui est prévu dans l'accompagnement de la mère?
L'accompagnement, j'aime bien le diviser en deux catégories. Il y a l'accompagnement purement strictement médical, quand même important de le rappeler, hein, les grossesses sont quand même plutôt bien suivies en France. Évidemment, rien n'est obligatoire, tout le monde a le droit de dire non, moi je n'ai pas envie d'être suivie, mais en tout cas, il est recommandé que d'un point de vue purement médical, la grossesse soit suivie de manière mensuelle, vraiment la petite consultation pour l'examen clinique, les prescriptions, les échographies, ça c'est le côté purement médical. Et de l'autre côté, il y a le côté plus accompagnement, avec la préparation à la naissance et à la parentalité. Et aujourd'hui, en France, ces séances de prépa peuvent être remboursées par la sécurité sociale. On dit même pas remboursées, on dit qu'elles sont prises en charge à 100%, c'est-à-dire que dans la majorité des cas, en fait, la femme enceinte ou le couple n'a pas besoin d'avancer les frais. Elle peut se permettre, à partir du 4e mois de grossesse, de prendre rendez-vous avec une sage-femme, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, pour dire, j'aimerais parler avec vous de prépa à la naissance. Il y a cet entretien, plus 7 séances qui sont prises en charge à 100%. Et après, selon les spécificités, de chaque sage-femme, la région dans laquelle elle exerce, il arrive qu'elle ait un supplément à avancer. Ça arrive dans certaines conditions. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, voilà ce qui est proposé à tout le monde. Donc, la prépa, c'est pas un luxe. Vraiment, tout le monde peut en faire.
Ouais, ça, c'est chouette. C'est vrai que nous, dans notre parcours, on avait commencé avec des cours à la maternité, à l'hôpital. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans ce podcast et dont je ne me cache pas, c'est qu'on a rencontré un univers qui était extrêmement médicalisé, un discours qui était extrêmement médicalisé, qui ne nous correspondait pas du tout. Et pour le coup, on est parti voir une sage-femme en libéral. Je vais la citer aussi parce qu'elle a été tellement géniale. Elle s'appelle Isabelle Députier. Et c'est vrai que ça a été... Là, pour le coup, ça a été vraiment la révélation du rôle de la mère, mais aussi pour le coup, parce qu'elle prépare souvent des accouchements à domicile, en fait, Isabelle, mmh. et pour le coup, il y a une implication du père et ou du coparent que j'ai pas trouvé déjà dans les premiers rendez-vous à l'hôpital. Et ça va amener ma nouvelle question, c'est qu'est-ce qui est prévu concernant justement le rôle du père ou du coparent avant l'arrivée de l'enfant, voilà, sur la préparation à cette parentalité.
Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les programmes de prépa sont vraiment choisis par la sage-femme qui les donne. Il n'y a pas de consensus sur qui fait... Enfin, voilà, vous avez un programme à faire à tous les coups. Et donc, chaque sage-femme fait son propre programme, fait ses propres horaires et ses propres modalités également de prépa. Par là, que ce soit dans une maternité ou en libéral, il est possible qu'en étant avec telle sage-femme dans la maternité, si c'était mis sur le cours B au lieu que le cours A, tu aurais peut-être eu un autre discours, peut-être plus inclusif, dans cette même maternité. Deux sages-femmes libérales dans le même cabinet n'ont pas forcément les mêmes cours de prépa. Et donc, j'ai vraiment envie, dans ces cas-là, d'inviter les couples à savoir que ça existe, savoir ce qui est important pour eux. Et ça peut être un critère de choix. En fait, quelle prépa j'ai envie de choisir? Eh bien, pour moi, c'est important qu'on la fasse à deux. Eh bien, je vais peut-être choisir mon cours de prépa à l'hôpital ou en libéral avec cette info-là. Parce que c'est vrai que je ne peux pas garantir à tous les coups que partout, les coparents seront intégrés. Je pense que quand même de plus en plus. Et après, chacune fait à sa sauce. Je connais des sages-femmes où les coparents sont les bienvenus à chaque fois. D'autres sages-femmes qui proposent sur un ou deux cours, mais qui aiment bien aussi laisser les futures mères entre elles sur d'autres sujets. Ou juste laisser le choix au couple. Vraiment, tout existe. Et donc, le couple a le droit de se dire « Ok, je sais que tout existe. » On se pose, qu'est-ce qu'on a envie, nous? On va essayer de trouver une sage-femme qui est capable de répondre à nos envies. Moi, peut-être que j'ai envie de faire tel et tel sujet avec mon partenaire. Mais par contre, ça me ferait plaisir de faire au moins un cours avec deux autres mamans pour parler de tel thème sans que mon partenaire soit présent. Et il existe aussi des ateliers spécialement coparents. Ça, pareil, c'est pas partout, mais ça existe dans certaines maternités, chez certaines sages-femmes libérales également, où c'est un atelier où, là, pour le coup, les femmes enceintes sont interdites. C'est que...
C'est de la non-mixité.
Exactement. C'est que pour ceux qui portent pas la grossesse. Et le but, c'est de se dire, peut-être qu'en cours de prépa, j'ai pas osé parler de mes craintes parce que j'essaie d'être tout le temps peut-être la personne qui rassure. Je vais peut-être me sentir plus à l'aise sans ma partenaire pour déposer ça. C'est des choses qui existent et j'aime bien dire aux couples que En fait, on ne signe pas un contrat avec la personne qui nous suit. Vous avez 7 séances prises en charge à 100%. OK. Eh bien, en fait, un peu comme des jetons, vous les placez où vous voulez. Si la sage-femme la plus proche de chez vous et qui a une politique qui vous correspond parfaitement, propose des cours qui vous intéressent, mais il y en a un où vous dites, franchement, en fait, ça ne m'intéresse pas, je préfère utiliser ce jeton pour aller à l'atelier de la voisine, bah, en fait, faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun soignant qui peut vous interdire de faire ce que vous voulez. Vous avez le droit également de prendre plus que 7 séances. C'est juste que ce ne sera pas remboursé, mais vous avez le droit de vous offrir une séance sur ce thème-là. Peut-être que c'est un peu plus loin et que ça ne vous arrange pas de faire tous vos cours avec la sage-femme qui propose ça à 20 km. Et ben, c'est pas grave, vous irez juste une fois sur tel thème. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qui existe. Comme ça, on en discute ensemble. Et en fait, on a le choix, parce que clairement, avoir le choix, c'est une chance.
Non, mais c'est clair. Après, c'est vrai que, tu vois, déjà, c'est bien de rappeler qu'il y a 7 séances qui sont prises en charge à 100%. Moi, je tiens à rappeler d'un point de vue légal de travail, de droit du travail aussi, que pour vous, les mères, vos rendez-vous, vous pouvez y aller quand vous voulez. Mmh. Je pense que c'est important de le signaler. Votre employeur n'a rien à dire. Alors, il peut vous demander un justificatif, bien sûr. Ça, c'est somme toute assez normal. Mais en tout cas, il ne peut pas vous empêcher d'y aller. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Et c'est du temps qui est payé. Je pense que c'est aussi important de le rappeler.
Tout à fait.
Concernant les pères ou les coparents, pour le coup, j'ai fait quelques petites recherches. Je suis tombé dans une dernière mise à jour du Code du travail de 2014, indiquant que, je cite, « Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité, donc un PACS, ou vivant maritalement avec elle, bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à 3 de ses examens médicaux obligatoires au maximum. » Alors, généralement, ces 3 rendez-vous dits obligatoires sont ce qu'on appelle, enfin, sont utilisés pour les 3 échographies qui sont recommandées pendant la grossesse. Et donc, pour vous, messieurs et coparents, attention, c'est l'absence, on peut aussi vous demander un justificatif. Par contre, elle est aussi rémunérée, que ce soit le temps de l'examen comme le temps de trajet. Voilà, donc ça, c'est un point qui peut être éclairci. Donc attention, pour vous, messieurs, les rendez-vous avec la sage-femme, c'est pas considéré comme un examen médical que vous pouvez imposer dans votre... Voilà, c'est un rendez-vous de prépa. Donc, juste voilà. Après, bon, je pense qu'en bonne entente, il est toujours possible de faire des choses intelligente dans les entreprises, mais c'était pour le petit point officiel sur ce qui est prévu, et rien d'autre, en tout cas, aucune autre prise en charge n'est prévue pour la préparation des pères et coparents, donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir.
Mais c'est hyper important, parce qu'en fait, de là découle beaucoup de choses, de là découle, ok, moi j'ai envie de m'impliquer, mais, mais concrètement, comment je fais? Est-ce que je peux vraiment aller à ce cours? Est-ce que c'est certain que parfois ça met en difficulté? Et par exemple, là, moi, j'ai un couple qui attend leur deuxième enfant. Si le conjoint pouvait se libérer du temps de travail, il pourrait venir. Mais en fait, le soir, eh ben, il garde l'aîné. Et voilà, et là, ils n'ont personne en ce moment pour dépanner pour l'aîné. Et en fait, même quand c'est des cours du soir, eh bien, les coparents ne sont pas toujours vraiment, en termes de temps, n'ont pas toujours le temps de se déplacer. C'est une barrière.
Et oui, c'est un vrai sujet. On y reviendra après, peut-être, sur les réflexions sociales et politiques qu'on pourra apporter sur le sujet. Mais en effet, c'est un vrai frein, quoi. C'est clairement un vrai frein. Là, on s'est parlé de comment ça se passe en préparation de l'accouchement. Alors, qu'est-ce qui est prévu ensuite au niveau de la mère pour l'accouchement et donc dans son parcours de parentalité, pour l'accouchement et les premiers mois après l'accouchement?
Eh bien, pour l'accouchement, si, comme la grande majorité des femmes, elle accouche à l'hôpital, elle se dirige vers le lieu pour accoucher. Après, pour les personnes qui accouchent en maison de naissance ou à domicile, c'est à peu près le même principe, mais vous n'êtes pas à l'hôpital. Donc voilà, la femme enceinte arrive potentiellement en travail, dans la plupart des cas, à la maternité. Accouche, il reste entre 2 et 5 jours, on va dire, selon comment s'est passé l'accouchement, son terme, selon si elle a déjà eu des enfants ou pas, rentre à la maison. Et c'est là où le relais est souvent pris par une sage-femme libérale ou la PMI pour des visites à domicile. Ces visites, elles sont souvent confondues. Tu as peut-être déjà entendu parler du mot prado. On dit souvent oui, mais le oui. prado, moi, on ne me l'a pas proposé, etc. En fait, c'est vraiment différent. Le prado, c'est la sécurité sociale. C'est quelqu'un qui passe dans votre chambre de maternité pour vous mettre en lien avec une sage-femme libérale. En fait, c'est un facilitateur. Mais les sages-femmes libérales existent toujours, parce que le prado a tendance à disparaître des maternités. Mais les sages-femmes libérales existent toujours. Et donc, ce n'est pas parce que personne ne vous dit que vous pouvez contacter une sage-femme que vous ne pouvez pas. Et donc, n'importe qui, aujourd'hui, qui accouche en France, a le droit de demander à une sage-femme libérale de passer à domicile à sa sortie. Et donc, après, selon combien de temps la sortie est faite après l'accouchement, la sage-femme libérale passe entre le lendemain de la sortie ou quelques jours plus tard, selon les besoins. On parle souvent de deux visites. En réalité, là, c'est vraiment une question de cotation purement de sage-femme. C'est-à-dire que nous, il y a deux visites qui sont cotées, qui nous sont rémunérées d'une certaine manière et les suivantes d'une autre manière. Mais ça, j'ai envie de dire, ça regarde la personne qui cote là, qui passe la carte vitale. Le couple concerné n'a pas à se faire de soucis avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une sage-femme, c'est un professionnel de santé. Quand vous êtes enrhumé, vous allez voir votre médecin, mais peut-être pas pour le rhume, mais on comprend l'idée. Et il vous dit pas, bah, je suis désolée, vous êtes déjà venu 3 fois cette année pour un rhume, c'est trop. Là, vous ne serez plus remboursé. Donc, il y a, tant qu'on est dans les 12 jours post-accouchement, les visites de la sage-femme sont généralement prises en charge à 100%, donc pareil, sans avance de frais. Et ensuite, ce n'est pas la fin du suivi. Ensuite, si j'ai toujours besoin d'une sage-femme pour parler de mon allaitement, pour vérifier telle douleur, tel truc, eh bien, je la contacte. Soit elle passe à domicile, soit je passe au cabinet. Et c'est juste que j'avance les frais comme n'importe quelle consultation médicale. Ce qui est déstabilisant, c'est que pendant la grossesse, on vous donne le prochain rendez-vous. Voilà, on se revoit dans un mois, on se revoit dans un mois, on se revoit. Et c'est déstabilisant. Et c'est vrai que c'est souvent relaté par les patientes. Ben, en fait, une fois qu'on a accouché, on est lâché dans le vide. Et ce qui vraiment, je le répète quotidiennement, nous, en fait, si d'un point de vue purement médical, on se dit, bon, on n'est pas inquiet, en fait, on vous laisse vous envoler, mais par contre, vous avez notre numéro. Et je sais que parfois, quand on est en difficulté, c'est ce pas qui est difficile, justement, de passer le coup de fil, d'où l'intérêt également que le coparent soit au courant, que la sage-femme peut être appelée, parce que c'est peut-être parfois cette personne qui va avoir le recul de dire « Non, non, mais attends, là, je vois bien qu'il y a un truc, ce serait peut-être bien que tu en parles à la sage-femme, je vais l'appeler. » En fait, oser demander de l'aide, être acteur de son postpartum, je sais que c'est très simple à dire et que c'est très difficile de prendre ce recul quand on y est, d'où l'importance pour moi de le répéter pour que ce soit un automatisme. Hop, j'ai une question, j'ai besoin d'aide, ben en fait je vais voir ma sage-femme, tout simplement.
Non, mais c'est clair que c'est un gros sujet. C'est aussi pour ça que le système du Prado qui est menacé, en tout cas qu'il était il y a quelques semaines encore, est un système mine de rien important pour rappeler aux gens ce qu'ils peuvent faire et faire les mises en relation. Ça, c'est important notamment pour les visites à domicile. Et c'est vrai que je te remercie de souligner le fait que on est tellement dans le bouillon, si tu veux, quand principalement les mères, hein, clairement, on va pas se mentir, hein. Les mères sont tellement dans le bouillon entre ce qui s'est passé physiquement, émotionnellement, ce qui se passe potentiellement en termes de charge mentale et affective aussi à la maison, que se dire ouais, il faut appeler la sage-femme, bah, c'est peut-être la charge mentale, tu vois, c'est peut-être le pas qui est le plus difficile à faire, mais c'est peut-être aussi la charge mentale de trop, tu vois. Donc moi après je suis pas mère, donc je ne sais pas, mais c'est clair qu'il y a tellement de choses, que ce soit le suivi, tu vois, ma compagne a une césarienne, donc il y avait un suivi pour la cicatrice, pour tout ça. Elle a aussi fait, je crois, le périnée avec une sage-femme, donc il y a aussi ça qui est possible, et donc elle a eu bien plus de 2 visites, hein, pour le coup, donc c'est important de le savoir. Et c'est vrai que c'est un sujet important pour le suivi. Et tu parles justement du rôle du père et du coparent dans la connaissance et la conscience de l'importance du suivi de la sage-femme. Alors, qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, à ta connaissance, pour justement ces pères et ces coparents dans l'accompagnement après la naissance ?
Qu'est-ce qui est prévu vraiment à ce moment-là ? Tu veux dire quelque chose qu'on n'aurait pas appris avant, comme la prépa, vraiment ?
Ouais.
Ok. Le but des visites à domicile, c'est également un temps d'écoute si toutefois ses coparents est disponible. En fait, c'est ça. Mais quand on passe à domicile, c'est vrai que quand le père ou le coparent est là, c'est aussi écouter les deux récits de l'accouchement, poser des mots, que quelqu'un dise « Sinon, ça va ? Est-ce que vous avez des questions ?» Oui, en fait, le simple fait d'être présent lors des visites, en fait, on s'adresse à un couple de jeunes parents qui a sûrement très peu dormi cette nuit, qui a plein de questions et qui découvre le retour à la maison et toutes les questions auxquelles on n'avait pas du tout pensé et qui sont tout à fait légitimes, et ce, même quand on accouche de notre quatrième enfant. Et en fait, c'est vrai que ces moments-là, je trouve que les visites à domicile, c'est des moments très intéressants pour donner la parole à cet accompagnant qui a vu, qui a entendu des choses au moment de l'accouchement, qui, encore une fois, parfois, je fais beaucoup de généralités, mais c'est une tendance, je pense, que je peux me permettre de faire, qui parfois voit des choses, interprète des choses et ne veut surtout pas déranger. Donc, on ne va peut-être pas dire « Excusez-moi, là, vous êtes en train de faire quoi ?» Et c'est du coup un espace, la visite à domicile, qu'on donne également à ce coparent pour qu'il raconte ce qu'il a vécu, les questionnements qu'il a eus au moment de l'accouchement. Et j'ai déjà eu plus d'une fois des pères qui ont eu l'occasion de dire qu'en fait, oui, l'accouchement, ça avait été difficile pour eux, vraiment. Et ça, rien que ça, je pense que c'est déjà pas donné à tout le monde, malheureusement.
Ouais, c'est vrai que c'est un sujet... Déjà, je suis content de savoir que tu as des pères qui sont présents aux visites.
Ouais.
Des pères ou des coparents qui sont présents aux visites, parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Tu vois, comment s'est passé l'accouchement ? En fait, il y a quelque chose qui est un petit peu paradoxal, si tu veux, quand on s'adresse au père. C'est que d'un côté, on a envie de se dire déjà nous-mêmes, on se dit, non mais attends, moi, j'ai rien qui a traversé mon corps, si tu veux. On m'a piqué de rien. Enfin voilà, on a presque envie de dire que nous, on n'a rien vécu. Sauf que si.
Ouais.
C'est un vécu qui est différent. Évidemment, le traumatisme physique est clairement nettement différent. Mais non, mais on va pas commencer à dire qu'on va s'occuper des pères avant de s'occuper des mères. Hein. C'est absolument pas le propos. Pour autant, ne pas reconnaître qu'il s'est passé quelque chose au moins émotionnellement ce moment-là chez le père ou le coparent. Moi, je pense que c'est en effet quelque chose qu'il faut prendre le temps de faire. Parce que, et là encore une fois, j'ai le bien-être de la mère en ligne de mire, parce que je pense que un père ou un coparent qui est bien dans ses pompes et bien dans sa tête, justement, il va être encore plus disponible pour aider la mère. Il pourrait être à l'écoute et pour aider la mère à elle aussi traverser ce moment, quoi. Vraiment en tant que à accompagner, tu vois, en tant que compagnon de vie, quoi.
Complètement. Et tu vois, quand moi j'adore ces visites à domicile, parce que tu as vraiment deux jeunes parents, parfois ils ont un peu peur d'être jugés, ne serait-ce que quand on fait la pesée et qu'ils doivent déshabiller leur enfant, et c'est là tout notre rôle, tu vois, de réassurance. On les laisse faire, moi je touche quasiment pas l'enfant à part quand je l'examine, mais je les laisse tout faire. Et c'est aussi un moment où je sais qu'ils ont cette petite pression du regard du professionnel. Et finalement, c'est un petit moment qui peut être désagréable. Mais quand après, j'ai l'occasion d'ajouter, franchement, vous vous débrouillez super bien, ce genre de choses, bah, je pense que c'est important de les valoriser en tant que parents. Et c'est vrai que quand le père ou le coparent est présent, et bien lui aussi, il a le droit à sa petite dose de « bah, franchement, là, c'est, enfin, vous avez réussi à remettre le pyjama super rapidement. Ne pas demander que à la mère... comment se passent les nuits, l'échange, combien de pipi, combien de sel, les sels sont de quelle couleur. » Et vraiment, en fait, quand on demande aux deux, c'est une vraie équipe. Et parfois, quand je pose des questions à la mère sur elle, comment elle va, c'est le coparent qui va me répondre en disant « Non, 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 dites-lui qu'elle doit se reposer davantage. » Parce que... et vraiment, il y a ce... Moi, j'adore ce dialogue avec le couple parce que c'est difficile de prendre du recul sur ce qu'on vit. Exactement ce qu'on vient de dire sur le postpartum, pour les jeunes mères, ça peut être difficile de se dire, là, en fait, c'est un motif de consultation. Et parfois, le recul de l'autre va permettre de dire, mais si, attends, excuse-moi, hier, t'as pleuré pendant 3 heures en disant que t'étais nulle, moi, j'ai besoin que t'en parles à la sage-femme. Et aussi, comme tu dis, c'est un, chacun s'accompagne et se suit. Le fait qu'il y ait de la place pour que tout le monde pose des questions, par exemple les couples qui ont choisi d'allaiter, si le coparent doute de l'allaitement, n'est pas rassuré sur le fait que l'allaitement fonctionne bien, on est voué à ce que l'allaitement ne se poursuive pas. On a vraiment besoin des deux membres de la team pour que l'allaitement se poursuive. Et donc, ce temps-là, répondre aux questions des deux, je trouve que c'est vraiment essentiel.
Ah bah complètement. Je peux que te rejoindre sur ce sujet-là, sur le fait que, puisque tu évoques l'allaitement, sur le fait que le rôle de l'accompagnant ou accompagnante sur l'allaitement est extrêmement important, justement pour décharger un maximum. Et donc, on a déjà fait un épisode avec Fred sur un sujet sur le rôle du papa allaitant, comme on peut dire sur les réseaux, mais qui est un rôle important. C'est un point essentiel pour que l'allaitement dure et perdure. Et il y a quand même un point aussi, tu vois, qui me semble extrêmement important, c'est de noter peut-être cette habitude qu'il faudrait retravailler aussi chez les professionnels de santé, de s'adresser au père et aux coparents plutôt qu'à la mère, tu vois. Parce que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la charge maternelle où, voilà, c'est à la mère à qui on s'adresse. Et même des fois, même quand c'est le père qui est en premier contact dans les fichiers, dans les fiches, dans ce qu'on veut, on va quand même appeler la mère. Donc ça, c'est un sujet qui me semble important. On va en parler juste après, justement, sur les solutions qu'on pourrait trouver pour faire un petit peu modifier la situation. Toi, tu as déjà un petit peu commencé à y répondre partiellement, mais la question que je voudrais te poser, c'est toi, de tes constats, de ton expérience de sage-femme, quel est l'impact de ces parcours tels qu'ils sont prévus aujourd'hui, si tu veux, au niveau un petit peu global, quoi. C'est-à-dire l'accompagnement de la mère et l'accompagnement du père et du coparent. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que toi, tu constates en termes d'équilibre dans les foyers, d'équilibre dans la parentalité? Est-ce que c'est quelque chose qui impacte ou pas?
Comme aujourd'hui, rien n'est vraiment fait pour aider le coparent à être présent, avec la meilleure intention du monde, c'est vraiment pas simple. Tu as beau être le coparent idéal qui a vraiment envie de s'investir de tout son cœur, de toute son envie, et bien malgré ça, c'est pas forcément si simple d'être présent tout le temps à 100%. Comme tu l'as dit tout à l'heure, être présent à trois rendez-vous, voilà. La prépa, forcément, ça se comprend aussi que certaines sages-femmes ne travaillent pas jusque 20h ou 21h, ça peut s'entendre aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les coparents qui ne sont disponibles qu'en fin de journée, quand ils ne peuvent pas se déplacer en journée? Ça peut être aussi à la maternité, je pense que c'est le cas dans beaucoup de maternités, les chambres d'hospitalisation et l'absence de lits accompagnants.
Ah ben ça. Pas,
mais ça, c'est quand même un vrai sujet. Tu sais qu'il y a des... Je ne sais pas si tu as vu, c'est assez récent, il y a peut-être une maternité en France où ça existe, mais il a été créé des lits d'hôpitaux de personnes.
Ah, c'est chouette, ça.
Après, à mon avis, même si ça venait à se développer, ce ne serait pas partout, parce que le principe quand même d'un lit d'hôpital, c'est que si un jour il y a une urgence, tac-tac, on enlève les freins et on part avec la personne qui est dessus. Hein, donc, la sécurité, on est obligé d'y penser. Mais c'est certain que dans les maternités où à présent, il y a des banquettes qui prévoient vraiment un espace pour cet accompagnant, en fait, c'est ça, se sentir inclus. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de coparents qui me disent j'étais là, mais comme ce que tu dis, on me regardait pas, on se sent de trop, on sait pas trop où se mettre, et en plus j'avais même pas de lit pour moi dans la chambre de maternité. Donc on a beau te dire mais si, bien sûr que vous pouvez rester, en fait tout autour de toi te donne l'info contraire, comme si le non-verbal de l'hôpital te disait il n'y a pas de place. Mais si tu mets ton tapis de sol là, tu gêneras pas trop. C'est certain. Et vraiment, j'invite à dépasser ce sentiment d'être de trop, parce que la présence est plus importante. Et ensuite, pour l'après, pour le coup, là, il y a l'allongement du congé paternité, bientôt, qui va être effectif. Je te vois lever les yeux.
On va en parler, oui, on va en parler si tu veux.
Oui, évidemment qu'on va en parler. Écoute, c'est quand même une avancée. quand même une avancée. Je suis d'accord qu'on est loin, loin, loin derrière certains pays, si c'est ça qui te fait lever les yeux au ciel. Mais en tout cas, on passe quand même de 11 jours à 25. C'est mieux que rien. Et franchement, j'ai de plus en plus, j'ai rencontré là cette dernière année, de par également les différents confinements, de plus en plus de pères qui étaient présents plusieurs semaines après la naissance. Et franchement, il y en a tellement d'entre eux qui m'ont dit oh, j'ai pas du tout envie de reprendre le travail. Je me dis, mais déjà à deux, on sait pas comment, enfin, on savait pas comment faire. En fait, j'ai juste pas envie de la laisser là seule. C'est pas normal. Et c'est vrai que ça, la présence du coparent après l'accouchement, de vivre ces journées dingues où on comprend qu'on n'arrive pas à se laver avant 17h et qu'un enfant, vraiment, c'est compliqué de le poser plus de 2 minutes dans sa journée, de l'expérimenter plusieurs jours et plusieurs nuits, et voilà, je pense que c'est essentiel pour l'harmonie et l'équilibre dans le couple et la compréhension de ce que l'autre vit.
Alors oui, bien évidemment, moi je milite pour un congé paternité rallongé, plus long que ça. J'ai moi-même fait le choix.
Bah oui.
Mais aujourd'hui, c'est un choix qui coûte. Si tu veux, moi, je suis resté 3 mois à la maison, mais c'est un choix qui coûte et qui coûte cher, puisqu'en fait, pendant 2 mois, tu te passes de salaire. Moi, j'ai pu bricoler, tu sais, avec mes vacances d'été, donc puisque j'ai eu la chance d'avoir une fille qui est née en été. Mais clairement, c'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Donc, donc voilà. Et tu m'as vu lever les yeux au ciel par rapport au congé. Oui, évidemment, j'entends que c'est un pas en avant, voilà. C'est un pas en avant, mais je pense qu'il faut le garder comme ce que c'est. C'est-à-dire, c'est un petit pas en avant.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà, c'est un petit pas en avant. On ne doit surtout pas s'en contenter. Et la mesure quand même qui est problématique dans cet allongement du congé paternité, c'est que certes, on est passé à... Alors, on va dire... Avec tous les jours qu'il y a, on va dire 28 jours, on va respecter la communication du gouvernement. Adrien Taquet, un petit coup en passant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a que 7 jours obligatoires.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a que 7 jours obligatoires. Et ça, c'est un point qui est essentiel. Parce que tu vois, on aurait été sur 28 jours avec 28 jours obligatoires. J'aurais dit, ok, c'est 28 jours. Mais par contre, on est sûr que le papa ou le coparent, ils sont là. Là, tu vois, je te donne un exemple tout bête. Moi, j'étais dans une entreprise avant où une grosse partie du chiffre d'affaires se fait sur le mois de décembre et novembre.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Concrètement, les personnes dont les enfants sont nés en décembre ou en novembre, selon les directions, bien sûr, toujours, la pression est monstrueuse sur le fait de revenir le plus vite possible au boulot. Tu vois, et on n'arrête pas de te dire, mais c'est bon, ton gamin, tu le verras en janvier. Ouais, sauf qu'en janvier, potentiellement, c'est plusieurs semaines où la mère a été seule et va savoir ce qui peut se passer. Donc, voilà,
tu vois,
c'est pour ça, c'est le bémol que je veux amener sur cette nouvelle. Ça reste une bonne nouvelle, on est d'accord. Mais il ne faut pas non plus, on ne va pas sortir les cotillons et le feu d'artifice tout de suite. Ça reste une bonne nouvelle. C'est vrai que cette période obligatoire est problématique. Mais c'est mieux que rien, voilà. On en est à se dire, c'est mieux que rien. Ok, je prends. Mais voilà, et c'est vrai que alors que tu vois, il y a des modèles qui existent ailleurs et dont la France peut s'inspirer. J'entends bien que la France, c'est pas la Suède, c'est pas d'autres pays, mais tu vois, par exemple, l'Espagne, et c'est une mesure qui a été prise de manière très graduelle, y compris avec la crise du coronavirus, pour passer de 4 à 16 semaines. Tu vois, donc, c'est quand même énorme, quoi.
Ouais.
Énorme. Donc, il y a ça. Et après, voilà, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut réfléchir, mais c'est vrai que ce temps qui est accordé ou pas au père ou aux coparents, c'est un vrai gros sujet.
Oui,
et
c'est
bien sûr que...
j'allais dire, en fait, je suis obligée là de faire le parallèle parce que je t'entendais parler et de toute façon, évidemment, le congé maternité lui-même est de toute façon bien trop court. Et en fait, merci. Juste la place qu'on donne à la parentalité et à la maternité, enfin, c'est rien. Voilà, évidemment. Pardon ?
Et à l'enfance même, j'ai envie de te dire.
Oui, oui. Et à l'enfance, non, mais complètement. Et voilà, là, j'ai exposé tout ce qui était possible. C'est certain que c'est pas assez. Pour moi, c'est important quand même de rappeler tout ce qui est possible de faire, les visites, les trucs, les machins, parce que rien que cette petite base, malheureusement, elle est même pas su par tout le monde. Et c'est vraiment des inégalités qui, quand on parle de la santé, c'est juste pas normal. Mais parce que voilà, la maternité ne rapporte pas beaucoup d'argent, la maternité n'est pas très importante, j'ai l'impression, en France. Et ça se voit sur absolument tous les aspects, que ce soit les usagers, que ce soit les professionnels. C'est tout ce qui gravite autour va dans le sens de dire « Ah oh, oui, bon, et ça va, hein, on parle de naissance, quoi. » Voilà.
Ouais, mais alors, je trouve ça extrêmement pertinent que tu soulèves ce point de « ça ne rapporte pas beaucoup d'argent ».
Ouais.
Sauf que aujourd'hui, il y a les études, enfin il y a des études financières faites par des grands économistes et grandes économistes qui sont faites sur le coût que ça a pour la société, justement le fait de mal s'occuper des parents et de la maternité, de la paternité. Donc aujourd'hui, on est sur une balance où ça coûte plus cher à la société de rattraper ce qui n'est pas fait que de mettre en place ce qui devrait être mis en place. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit. Donc je pense que, ouais, mais c'est ça. Donc c'est sûr que dans une startup nation, comme dirait notre cher président, c'est sûr que la vision à long terme, c'est pas trop sa tasse de thé. Mais pourtant, c'est quand tu fais un enfant, si tu veux, tu le fais pas à court terme. Tu vois,
c'est ça. En fait, c'est un peu la base de tout. Si tu crées de bien bonnes fondations, on parle toujours des fondations, mais on oublie que finalement les fondations, elles se jouent peut-être là. Là, exactement, quand on est en train de fonder une famille, quand il y a un nouvel être qui est en train d'arriver, qu'on va éduquer, qu'on va essayer de vraiment rester une team au sein du couple, de se partager les tâches, se partager la charge mentale. En fait, c'est là la fondation du couple, de la famille, de la parentalité, parce que je me sens bien dans mon couple, parce que j'ai le temps de m'occuper de mon enfant et je ne me sens pas... comme tu dis, j'ai pas la pression de ma société derrière qui me dit non mais attends, tu vas pas aller jouer au bon père de famille là, alors que nous on est en train de faire notre chiffre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui ça demande beaucoup d'efforts, même au père ou au coparent le plus investi, ça lui demande quand même beaucoup d'efforts d'atteindre le but qu'il a envie d'atteindre. Je ne sais pas si c'est une impression, mais...
Rien n'est fait. Alors là, pour le coup, je vais recommander une nouvelle fois le livre de Sylvia Giampino, « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» Rien n'est fait dans la société aujourd'hui, en tout cas très peu est fait, plutôt, pour justement faciliter cette place et cette responsabilité que doit prendre le père ou le coparent. Voilà, ça c'est un point qui me semble essentiel. Et je précise en passant que quand on parle de père ou de coparent, hein, bien sûr, bien évidemment, il est essentiel que les familles homoparentales aient les mêmes droits que les familles hétéronormées et tout ça. On parle d'un foyer familial et la question de l'orientation sexuelle n'a rien à voir. Donc il faut que j'insiste sur le fait que tout le monde doit avoir les mêmes droits. Mais voilà, on a assez de suite, comme ça on est sûr de rien perdre. Donc je disais, il est important que tout le monde ait les mêmes droits. Moi, je te rejoins sur le congé maternité parce qu'en effet, vouloir être dans un mouvement de normalisation de l'allaitement, moi, je suis évidemment pour. C'est clairement une position que je soutiens. Mais en même temps, mettre ça dans une certaine pression sur les mères une fois de plus parce qu'il faut et allaiter et retourner au travail et machin et truc, alors qu'on pourrait aussi se dire, voilà, le congé maternité, si pour une personne qui souhaite faire un allaitement exclusif, ben, il devrait pouvoir aller jusqu'à ces 6 mois pour que ça se passe bien. Tout en gardant à l'esprit que c'est pas forcément le souhait de toutes les mères, et donc on pourrait avoir quelque chose de modulable. Voilà, moi c'est comme ça que je vois le truc. C'est que il faut respecter aussi la volonté de chacun et de chacune. Ça me semble être un sujet important. Sur le congé paternité coparent, donc clairement il y a des pressions qui sont importantes, mais il y a d'autres sujets aussi, tu vois. Sur le point qui me semble important et que tu évoquais tout à l'heure, Tu parlais tout à l'heure de parents qui peuvent avoir des pères qui peuvent avoir du problème pour dégager le temps en préparation à l'accouchement. Donc déjà, au niveau social, ça serait peut-être bien de te dire que le père ou le coparent doit aussi avoir du temps pour justement se préparer à ça. À minima, pour accompagner la mère qui peut avoir des craintes, qui peut avoir qui peut avoir besoin d'être de ce temps d'échange, voilà, avec son compagnon ou sa compagne de vie. Et tu parlais aussi de parents qui ont deuxième enfant à garder ou c'est pas forcément le temps de dégager du temps. C'est là où je pense aussi qu'il faut avoir conscience des inégalités sociales qui se jouent sur la parentalité. Parce que moi, clairement, si tu veux, je vais pas le cacher, j'étais cadre. J'étais cadre dans une entreprise. Je disposais de mon temps pratiquement comme j'en avais envie. Et donc, quand il y avait des rendez-vous, des prépas, je disais, voilà, tel jour, telle heure, je serai pas là. On va organiser le travail autour de cette problématique. Alors que, clairement, dans les statuts d'employé ou même de cadre dans certaines entreprises, ça se passe pas du tout de la même manière. On n'a pas le choix. Et donc, il faut peut-être aussi réfléchir à ça, donc ouvrir le champ des possibles avant ce temps de l'accouchement et à la préparation justement pour parler de ce projet de parentalité. Pour pas découvrir tout à coup, pour pas que le parent découvre tout à coup que c'est la merde
quand le bébé arrive. Mais en fait, c'est à ça que ça sert effectivement la prépa, tu l'as résumé en une phrase. Non mais c'est vraiment ça, franchement moi j'adore, j'ai beaucoup de prépa en couple. J'ai cette chance là et donc c'est hyper intéressant parce que j'ai les retours des coparents et mon premier cours, tu vois, c'est toujours sur la gestion des contractions. Finalement c'est le premier cours, mais du coup ça veut dire que c'est le cours le plus éloigné de l'accouchement, mais je le fais toujours en premier parce que c'est celui où je dis franchement, s'il y en a un où vous devez être à deux, je vous conseille que ce soit celui-là. Et mon but après c'est un peu de les de dire hey, vous avez vu, c'était cool, bah, vous êtes bienvenue à chaque fois. Et ça fonctionne pas mal. Mais c'est ça, en fait, souvent on se dit, bon, quand je les vois en entretien, il y a beaucoup de choses. Il y a les inégalités, tu l'as dit, mais il y a également cette construction sociale qui est évidemment un poids énorme. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de la place du coparent, spontanément, je pense que beaucoup se disent, bah oui, de toute façon, ils ne prennent pas suffisamment leur place. Moi, j'ai également plus d'une patiente qui me dit, oui, enfin bon, ça, de toute façon, je lui dirai. Donc, même elle ne voit pas ce que ça peut vraiment lui apporter, le fait d'être deux. Et en fait, la prépa, comme tu dis, ça permet de se préparer à ce que peut-être plus tard, voilà. Mais c'est aussi un cheminement. En fait, franchement, quand tu peux être à deux pendant cette séance ou même pendant que quelques séances, franchement, combien de fois pendant la grossesse, tu es à deux ou même si c'est avec d'autres couples en face de quelqu'un à qui tu peux poser des questions et prendre peut-être une heure et demie pour parler de la grossesse et de ce projet. Je trouve que c'est également un cheminement vers l'accouchement, vers la parentalité. Et souvent, quand on démarre la prépa, il y a ce cheminement qui se fait. Et quand on la termine, là, ça y est, on est à quelques semaines du potentiel accouchement. Enfin, on est potentiellement à quelques semaines de l'accouchement. Et ça y est, là, les parents ont hâte parce qu'ils ont cheminé ensemble, ils ont pris les mêmes infos. Et effectivement, ça rassure souvent la mère de se dire, bah ça, en fait, je ne vais pas devoir lui dire, je ne vais pas prendre ce rôle de devoir éduquer l'autre. On est là à deux. Et franchement, moi, quand les conjoints sont présents, j'ai plus d'un qui répond parfois plus à mes questions que les mamans. Parce que, bah, c'est parce que certains lisent de leur côté ou parce qu'ils ont déjà fait l'atelier papa dans leur maternité et qu'ils savent plein de choses. Et en fait, pour la femme enceinte, elle se dit... Waouh, en fait, ça me rassure quand même pour la suite. Et ça, juste être rassurée de se dire, mon partenaire a entendu cette info, c'est pas à moi à faire preuve d'autorité en lui disant, tu sais, pour le postpartum, j'aurais besoin de toi. Bah, c'est pas la même chose quand c'est un professionnel qui dit, voilà à quoi s'attendre. Parfois, on prépare aussi aux choses vraiment médicales et non glamour. Voilà à quoi s'attendre, mais vous êtes une équipe. On se soutient. je trouve que souvent, les coparents se disent « Oui, bon, je vais venir pour écouter, pour surtout accompagner l'autre. » Et en fait, après coup, ils se disent « Ouais, en fait, je ne pensais pas que ça allait me servir, mais finalement, j'ai appris plein de trucs et je suis content aussi. Je suis content parce que Parce que je sais, j'ai des clés. Souvent, c'est des personnes qui sont assez pragmatiques, qui ont besoin de savoir, bon, bah, dans quel cas, je dois l'amener à l'hôpital ou pas. Là, je m'inquiète pas. Et en fait, j'ai un socle d'informations qui me permettent de me dire, voilà, enfin, clairement, en prépa, je n'apprends pas à devenir parent. Hein, je pense qu'on ne devient que quand on l'est. Mais en tout cas, j'ai ce socle d'infos pour me sentir suffisamment en sécurité pour prendre ma place aussi. Et quand c'est un professionnel qui dit, bah, écoutez, oui, à un moment donné, bah, forcément, potentiellement, vous, monsieur ou coparent, vous allez reprendre le boulot plus tôt, et c'est normal si vous changez moins vite les couches que madame qui est à la maison tous les jours, c'est normal, mais en fait, pas de pression. Vous les changez moins vite, mais vous êtes capable de les changer aussi. Bah, ça paraît peut-être rien, mais c'est toujours cette notion de réassurance et de donner la place à chacun, en fait, vraiment. La prépa, c'est un vrai cheminement pour moi. J'adore.
Non mais c'est clair, c'est clair. Et je te remercie de moi, il y a deux points qui m'ont vraiment interpellé dans ce que tu as dit. C'est le premier, c'est justement le fait que potentiellement, mine de rien, la mère peut déresponsabiliser le père ou le coparent en disant c'est moi qui vais lui en parler. Non, c'est aussi son enfant, hein. Juste pour rappel, parce que c'est une phrase que j'entends souvent encore, malheureusement, chez mes homologues père en l'occurrence. C'est de dire, je lui ai fait un enfant. Non, vous faites un enfant.
Exactement.
Il y a autant de responsabilités de l'un que de l'autre. Et le souci, c'est que cette attitude de déresponsabilisation du père, qui peut être menée certes par la mère, mais aussi
Bien
beaucoup par
sûr.
la société quand même, fait que justement ça reste là-dedans. C'est ok, finalement, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà, c'est bon. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et l'autre point qui m'interpelle aussi dans ce que tu dis, c'est justement ce décalage de montée en compétences qu'il y a. C'est juste pour tuer un espèce de mythe qu'on peut entendre partout. Non, la mère, dans l'exemple que tu donnes, hein, dans le cadre que tu donnes, et aujourd'hui encore, au moment où on enregistre avec ces fameux 14 jours de congé paternité, non, la mère ne change pas les couches plus vite parce que c'est une femme. Elle la change plus vite parce qu'elle est plus là pour le faire.
Exactement.
Et donc, elle monte en compétence plus rapidement. Non, mais c'est tout. Et l'inverse est aussi vérifiable. Moi, je sais que j'ai beaucoup changé les couches puisque j'étais là les 3 premiers mois et que j'ai repris le travail après ma compagne. Hein. Ben oui, on monte en compétence, en fait. C'est tout. Et ça commence dès la maternité. Nous, on a eu... Alors... Je vais pas dire la chance parce que je vais respecter le trauma physique de ma compagne qui a eu une césarienne. Mais en fait, comme elle pouvait pas se lever, même le personnel soignant n'a pas eu le choix. Fallait s'adresser à moi. Il fallait que je fasse ci, il fallait que je fasse ça. Donc voilà. Et ça, moi maintenant, si tu veux, je le vois vraiment comme une chance en fait, comme la chance qu'on me de pas être mis de côté. Et voilà. Donc ça, c'est un sujet. Je pense qu'il faut bien être clair avec les pères et les coparents. C'est vous êtes autant responsable de la grossesse a priori. Ça s'est passé ensemble, dans la majorité des cas. Mais vous êtes autant responsable de la grossesse et de l'enfant, et vous êtes autant responsable de prendre votre place. Ça, c'est vrai que tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, et c'est vrai que dans les maternités, ce qui est un petit peu chiant, on va dire, on va utiliser ce mot-là, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la facilité, il faut prendre sa place. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose qui s'est passé dans la maternité où on s'adressait à ma compagne, où je disais non, 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 vous allez vous adresser à moi. Ma compagne est fatiguée, il faut vous adresser à moi. Et c'est vrai que c'est chiant parce que bah, parce qu'on n'a pas forcément envie de rentrer dans l'art des gens. Enfin, voilà, donc, mais des fois, il faut vraiment prendre cette place. Donc, il y a tout ce sujet-là. Et c'est vrai qu'après, tu vois, il y a d'autres sujets, d'autres situations plus spécifiques auxquelles on pourrait penser, tu vois, au niveau social. Tu évoquais tout à l'heure le fait que d'avoir un deuxième enfant à garder pour venir à un rendez-vous pour un nouvel enfant, par exemple. Ben peut-être qu'on pourrait se dire que il pourrait y avoir un espèce de chèque service pris en charge au moins en partie par l'État pour avoir une babysitter ou un babysitter qui vient garder l'enfant à ce moment-là. Enfin voilà, une aide en fait à ce parcours parental, quoi. Des idées, il y en a plein. Il faut écouter les parents qui s'expriment, mais qu'on n'écoute pas forcément. Donc des idées, il y en a plein, mais c'est vrai qu'il y a un vrai, tu l'as dit au tout début. Il y a une vraie place de la parentalité à repenser, quoi. Alors après, quand même, parlons des choses qui vont bien aussi. Il y a des entreprises qui prennent des initiatives sur le congé paternité et coparent, notamment, où on peut avoir plusieurs mois. Donc, il y a des entreprises qui font ça. Je ne les citerai pas parce que j'ai peur d'en oublier des très bien et que voilà. Mais je vous invite à vous renseigner sur Internet. Il y a des entreprises qui le font et qui le font très bien. Donc voilà, il y a des initiatives privées qui existent, et après ça reste l'initiative individuelle. Et là, ça se gâte parce que moi je suis convaincu que les congés payés, c'est pas du temps qu'on devrait passer à être en postpartum.
Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et en plus, quand on utilise ces congés payés, comme par exemple toi, tu as réussi à déplacer tes congés, etc. Eh bien, toi, tu as peut-être réussi à les mettre tous d'affilée. Mais du coup, il y a plus d'un couple, et parfois en accord, hein, l'un et les deux, en se disant, là, je serai juste dispo 3 jours après l'accouchement, mais comme j'ai mes congés payés, je vais les coupler avec les 11 jours et puis on partira au ski dans un mois. Donc, voilà. Et donc, en fait, c'est ça, quand on se dit, c'est des congés payés, en fait, dans notre tête, on se dit, c'est des congés, effectivement. D'ailleurs, le mot congé paternité, congé maternité, enfin voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le mot congé, voilà.
Tout à fait.
Voilà. Mais en tout cas, cet arrêt post-naissance, effectivement, lui donner une vraie place, c'est également lui donner une vraie place dans la société. C'est vraiment ça. En fait, c'est fou parce qu'à la naissance d'un enfant, né également deux parents, on a l'opportunité à ce moment-là, en fait, de donner beaucoup de confiance en l'être humain. On a l'occasion de donner beaucoup de réassurance. On a l'occasion de permettre à la personne qui vient d'accoucher de se rendre compte de la puissance de son corps, de la puissance qu'a son corps de se remettre sur pied dans les mois qui suivent. On a vraiment l'occasion de... En fait, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il y a tellement d'obstacles à franchir que finalement, je ne vais pas dire que c'est banal de faire un baby blues ou de vivre un postpartum difficile, mais franchement, il y a des choses qui sont tellement difficiles à mettre en place que presque chapeau qu'il n'y ait pas plus de difficultés. Il y en a déjà beaucoup, il y en a beaucoup qui sont non dites aussi, mais vraiment, c'est... C'est compliqué quand on change de... On devient une autre personne. La femme est en train de devenir une nouvelle personne. Le coparent également. Ils ont l'occasion de découvrir peut-être la force de leur couple à vivre une naissance. Et vraiment, quand je dis ça, c'est pas dans le sens « Waouh, c'est magnifique, il n'y a pas de difficulté ». C'est pas ça. Mais en fait, initialement, cet enfant, il a été conçu pour devenir parent. Il n'a pas été conçu pour avoir des conversations. Est-ce que tu as pensé à faire ci? Est-ce que tu as pensé à faire ça? Punaise, je suis claquée, vas-y, occupe-toi de ton fils. Voilà. Et en fait, il y a tellement pas beaucoup de choses qui sont mises en place dans les suites que c'est difficile de juste se dire « Et en fait, regarde, on est parents et viens, on s'assoit sur le canapé et là, on kiffe. » Tu vois, franchement, mais moi, c'est tellement mon conseil numéro un pour le postpartum, c'est de se dire, mais est-ce que là, aujourd'hui, vous avez juste kiffé être parent? Mais chacun de votre côté, moi, coparent, est-ce qu'à un moment donné, j'ai eu mon moment seul avec mon enfant? J'ai pris ma place et j'ai kiffé être parent. Parce que c'est vrai que c'est être un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression, d'être la coparent, parce que tu reprends vite le boulot. À la fois, tu peux être plutôt content de reprendre vite le boulot, mais quand tu es au boulot, potentiellement, tu penses à être à la maison et tu te demandes comment ça va. Et quand tu rentres à la maison, tu te dis, franchement, aujourd'hui, je n'étais pas à 100% au boulot. Donc, du coup, tu repenses au boulot alors que tu es rentré à la maison. Mais tu n'as quand même pas envie de te plaindre parce que, en face de toi, tu as quand même la personne qui a passé sa journée à tenter de survivre. Et en fait, t'es jamais à 100%, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'es jamais à 100% dans ce que tu fais. Et prendre ce moment, peut-être parfois c'est juste ces 10 minutes de ça, c'est mon temps à moi, de parents, et je kiffe. Je parle pas d'un acte à faire, mais vraiment de juste un moment de kiff. Pour moi, c'est ça aussi, prendre sa place. C'est oui, la responsabilité à partager, l'équilibre dans le couple, dans le foyer, etc. Mais prendre sa place aussi, c'est... kiffer sa parentalité, se rappeler à la base pourquoi on a voulu avoir un enfant.
Ouais, tout à fait. Je te rejoins, tout en ayant conscience qu'on n'est pas tout seul.
Bien sûr.
Parce que malheureusement, si tu veux, aujourd'hui, les chiffres montrent quand même qu'on a plus de père ou de coparent qui rentre à la maison en disant à l'autre, attends, moi je suis allé bosser toute la journée, toi t'es resté avec le gamin. Tu vois?
Oui,
je,
moi j'ai beaucoup
désolé
de discours. Non,
casser
mais...
un peu le...
Non, tu casses pas du tout, c'est la réalité.
Le mythe, mais il y a cette réalité. Et l'autre réalité, c'est qu'on a aussi beaucoup de pères ou de coparents qui, justement, prennent leur moment de kiff.
Oui, et c'est tout.
Avec l'enfant, pendant que l'autre personne se tape la charge mentale du domestique et familial.
D'accord, c'est important de nuancer. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi.
Tu vois, je pense qu'il faut... je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je pense qu'il faut aussi poser, tu vois, moi ce que je rajouterais à ce moment-là dans la question par rapport à ce que tu dis, parce que je pense que c'est une très belle démarche. Hein. Je pense que c'est vraiment que c'est une très belle démarche de dire à la personne, est-ce que tu as kiffé être parent aujourd'hui? Est-ce que tu t'es posé deux secondes en disant, voilà, je suis parent et c'est quelque chose qui me plaît.
Oui, là, je suis partie du postulat des deux personnes très engagées dans la parentalité quand je dis ça.
Voilà. Ou potentiellement qui ne plaît pas. Mais attends, tu peux aussi poser l'autre question, c'est-à-dire, est-ce que ta compagne ou ton compagnon, il a eu son moment de kiff aussi?
Ouais, tout à fait.
Et même si la personne, sur l'instant T, tu vois, elle n'est pas capable de répondre, ce qui n'est pas grave, mais en tout cas, tu as planté la petite graine. La petite graine de la personne qui va observer sa compagne ou son compagnon et qui va se dire, ah ouais, mais attends, mais en fait, il ou elle est tout le temps en charge, en fait, permanente, et elle n'est pas là, la tête libre à juste kiffer être parent, donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place?
Complètement. Je suis d'accord avec toi. Pour faire de la rééducation du panier, c'est très intéressant parce qu'on a le retour des patientes 2 mois après l'accouchement. C'est souvent là où, effectivement, je retrouve mes patientes qui, au bout de quelques séances, se mettent à pleurer et elles me disent en fait, monsieur ne se rend pas compte de tout ce que je fais. Ouais. Et il me dit qu'il rentre fatigué du boulot. Et moi, en fait, je n'en peux plus. Et c'est là où c'est compliqué parce que comme le coparent ne peut pas rester beaucoup à la maison, combien de fois il a vécu vraiment, je l'avais dit tout à l'heure, plusieurs jours d'affilée, l'alternance vraiment jour-nuit, avec un enfant à charge. Combien de fois elle a été seule avec cet enfant? C'est... Voilà.
Mais là, tu touches un point, si tu veux, qui me semble aussi très important. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de la place de la parentalité globalement. On a un peu dévié, mais c'est pas grave. sur la place globale de la parentalité, parce qu'est-ce qu'on peut vraiment parler du rôle du père ou du coparent sans parler de la parentalité vécue dans le noyau familial? Je ne pense pas. Et tu vois, le fait de se dire qu'aujourd'hui, un adulte, peu importe lequel, peut potentiellement être seul en jour-nuit avec un enfant, en fait, l'espèce n'est même pas prévue pour ça. Je vais reprendre les travaux et les propos d'Ingrid Bayo, je sais que je la cite souvent, mais en même temps, c'est la réalité. L'espèce n'est pas prévue pour ça. Personne n'est prévu pour rester seul avec un enfant, notamment en bas âge, comme ça, et s'oublier totalement pendant ne serait-ce qu'une journée. Donc, c'est ça aussi qu'il faut remettre. Il y a des sociétés qui l'ont comprise. Hein. T'as des sociétés, notamment en Norvège ou au Danemark, où t'as des communautés comme ça de parents auxquels on t'assigne. C'est obligatoire. Tu dois aller rencontrer d'autres parents à tel moment de la journée. Voilà, Et pour le coup, tu te rends compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a des co-allaitements qui se mettent en place si besoin. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, et pour le coup, bien entendu, c'est aussi des pays où les parents sont les plus heureux du monde.
Comme par hasard. Donc, incroyable.
Non, mais tu vois,
est-ce une coïncidence?
Incroyable. C'est parce que c'est une charge qui est tellement grande que en effet, on peut pas aller seul. Et en plus, derrière, à côté de ça, il y a un contexte de société, en tout cas en France, qui n'encourage pas vraiment. Quoi.
Non, c'est pas valorisé, en fait. Valorisant de s'occuper d'un enfant, tout simplement.
Exactement.
Et même, parfois, les jeunes mères dénigrent elles-mêmes ce qu'elles font. « Oh, je suis fatiguée alors que j'ai que ça à faire, m'occuper de mon enfant. » Oui, vous occupez d'un être humain qui n'est pas autonome, qui, sans vous, ne peut ni se déplacer, ni manger, ni se laver. Oui, il peut respirer, c'est vrai. mais il ne peut pas se consoler. C'est juste énorme. Un être surtout quand on voit à quelle vitesse s'agrandit un nouveau-né. Et à ça, tu ajoutes le fait, en fait de se remettre de 9 mois de grossesse et d'un accouchement. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué de parler de la place du coparent sans parler de ça, parce que savoir ce que l'autre vit permet aussi de redonner du sens à sa place pour toutes ces personnes qui disent oui, bon, bah ça va, comme tu dis, maintenant le job est fait, moi j'ai, j'ai déposé ma graine et voilà. Non, savoir la réalité de qu'est-ce que la maternité, qu'est-ce que l'accouchement, qu'est-ce que le postpartum, eh bien tout à coup, oui, en fait, c'est vrai qu'en tant que coparent, eh bien, j'ai ma place à prendre qui pourrait être utile dans cette triade.
Exactement. J'ai une place à prendre et quitte à remettre en question aussi d'autres sujets, comme l'organisation de potentiellement certaines tâches au foyer. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à prendre en compte.
Je voulais juste ajouter vraiment, je pense qu'on est comme dans beaucoup de sujets dans une période de transition. Où il y a encore bien trop effectivement de pères, de coparents qui ne prennent pas la place qu'ils doivent prendre et beaucoup de jeunes mères qui n'arrivent pas à en parler. Mais il y a également beaucoup de coparents et de pères qui du coup n'arrivent pas à trouver leur place et c'est cette différence qui est aujourd'hui, je pense, parfois difficile à vivre, vraiment à tous ceux qui ne savent pas comment prendre leur place concrètement. En fait, j'ai vraiment envie de dire que déjà, franchement, savoir se poser cette question-là, est-ce que là, je prends vraiment ma place, c'est déjà un pas énorme. Après, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Mais vraiment, posez-vous cette question, est-ce que je prends vraiment ma place et est-ce que j'en ai discuté avec l'autre? En fait, est-ce que je trouve ça sympa, les jeux de rôle? Si moi, j'avais accouché il y a 3 semaines et que j'avais eu des points de suture et des saignements, qu'est-ce que j'attendrais de mon partenaire? Vraiment se mettre à la place de l'autre, vraiment prendre un temps pour se poser cette question. Bon ben voilà, imaginons, là vous venez d'être opéré du ventre. Qu'est-ce que j'attends de la personne avec qui je vis? Et est-ce que je suis cette personne-là? Je me le note à moi. Et après, est-ce que j'en ai parlé avec la personne avec qui je vis? Est-ce que vraiment on en a parlé ensemble de la parentalité? Et je reviens à ce que je disais sur la prépa, c'est un temps d'échange, combien de fois ça arrive. Parfois, ça semble tellement évident, mais si on est d'accord, les nuits, on va s'organiser comme ça. Mais est-ce qu'on en a vraiment parlé, en fait? Est-ce qu'on en a parlé en couple? Est-ce qu'on s'est dit, voilà comment moi j'imagine les choses, et toi tu les imagines comment? Les week-ends, les semaines où tu travailles? Parce qu'il y a beaucoup de mères qui disent, bah oui, mais j'allaite, donc de toute façon j'allaiterai aussi la nuit. Ok, mais du coup la journée, en fait vous dormez quand? Enfin, si lui il travaille le jour et dort la nuit, ben vous, vous dormez quand, vu que la journée, vous êtes... Et donc, il y a une vraie discussion à avoir en couple, être sûr que chacun est d'accord un peu sur l'idée de la parentalité. Et puis après, on s'adapte avec ce qu'on vit. Mais prendre ce temps pour en parler, en fait, vraiment poser les mots, ne pas sous-entendre que l'autre comprendra que peut-être, mais dire... Voilà, ok, on a fait les cours de prépa, ok, il y a une autre personne qui t'a dit que, voilà, moi, de quoi j'ai besoin. Et c'est beaucoup plus simple d'en parler avant d'avoir accouché et avant d'être dans les hormones et dans la fatigue et dans peut-être les doutes de la parentalité. Vraiment, je ne peux que conseiller d'en parler avant l'arrivée de l'enfant et après, on s'adapte.
Non, mais c'est sûr. Après, de toute façon, c'est sûr qu'après, on s'adapte, mais en effet, c'est des sujets qu'il faut évoquer. Moi, je dirais même au moment où on pense à faire un enfant.
Clairement, parce que, oui. J'ai pas osé le dire.
Parce que voilà, parce que on peut oser, hein, il faut oser, et on peut même pousser sur d'autres sujets, sur le fait de l'éducation, comment est-ce qu'on la voit, comment est-ce qu'on l'aperçoit, quel est le rôle perçu par chacun, voilà, c'est des sujets dont il faut parler au moment où le projet bébé se met en place, quoi. Merci beaucoup, Charline,
merci à toi
pour tout ça, on a bien discuté. Je te souhaite une bonne soirée, et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.